Alors, il y a beaucoup d'actions dans le studio présentement, plein de monde, ça fait du bien, c'est le fun d'être en groupe. Alors, c'est le fun, mais c'est pas un sujet qui est vraiment un sujet heureux. Hein. Si les progrès médicaux ont rendu le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, gérable, on note malheureusement une augmentation des nouveaux diagnostics au Canada et au Québec, une tendance jugée décourageante par plusieurs experts qui soulignent un manque de volonté politique et de financement. Alors, quoi de mieux qu'aujourd'hui d'en parler parce qu'il y a un organisme qui s'appelle Maison Plein Cœur qui lance une campagne de financement cruciale. Alors, on a pensé des invités pour justement parler de ce sujet-là. On a avec nous Éric Fortin, qui est président de Maison Plein Cœur, et je peux me permettre qu'il vit lui-même avec le VIH. Bienvenue à l'émission, Éric.
Bonjour, Denis Martin. Merci de nous avoir invités.
Merci d'être là. On a aussi les porte-paroles. C'est important, des porte-paroles dans des campagnes de financement. On reçoit donc Katie Antoine, qui est une artiste et entrepreneur sociale, qui est aussi animatrice ici à Canal M. Salut, Katie.
Salut.
Et on a là notre populaire, notre amie. Elle est souvent ici. Notre chère Barbada. Est-ce qu'on dit Barbada aujourd'hui?
Oui, absolument, c'est Barbada. C'est toujours Barbada.
Toujours Barbada. C'est parce que Barbada n'a pas mis sa perruque aujourd'hui.
Ben non, mais en même temps, Barbada, des fois, c'est pas de perruque. Barbada, c'est avec perruque.
Tout à fait, parfait. Alors, écoute, je vais vous le dire, on devait recevoir le docteur Routier qui, malheureusement, a un empêchement assez sérieux. Donc, on va demander à Éric Fortin et à la gang de compenser un petit peu pour la science que devait nous amener Dr. Routy. Les dernières données indiquent une augmentation importante là, des nouveaux cas de VIH. Là. On parle de 2022-2023. Les chiffres 2024 devraient sortir cette année. Là. Je pense qu'au 1er décembre, c'est justement à ce moment-là qu'ils sortent. Comment on explique cette recrudescence de alarmante là, alors que on fait tout ce qu'on peut pour freiner le VIH?
Ben en fait, ça s'explique par un grand manque de volonté du gouvernement d'informer et de faire des campagnes d'information à ce niveau-là. Puis c'est vraiment dommage parce que le VIH aujourd'hui, c'est une épidémie qu'on pourrait enrayer probablement en 5 ans. Parce que désormais, quand quelqu'un est dépisté, traité et prend ses traitements antirétroviraux, il ne peut plus transmettre le VIH. Et pour avoir été l'année passée à la conférence de Munich sur le VIH-SIDA, c'est une situation qui est mondiale. Puis il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers parce qu'ici, ça ne veut pas dire que nos acquis, on ne peut pas les perdre. Puis on le voit parce qu'il y a de plus en plus de contamination. En fait, le message passe tellement pas que moi, j'entends des choses qu'on entendait dans les années 80, puis j'entends l'extrême des gens qui disent « Ah, le VIH, c'est réglé, vous prenez une pilule, c'est une maladie chronique, vous avez plus de problème avec ça. » Fait qu'on voit qu'il y a vraiment un grand manque au niveau de l'éducation, puis nous, les organismes communautaires, on n'a pas les moyens de rejoindre toute la population pour en parler.
J'aimerais juste revenir à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit qu'on retrouve des discours qu'on entendait dans les années 80. Quelle sorte de discours?
Ben pour te donner un exemple, j'ai fait une entrevue radio l'année passée pour la journée du 1er décembre à la Radio-Canada Bas-Saint-Laurent. Puis l'animateur me parlait du cancer des gays.
Oh!
Il y a 6 mois, je suis allé chez une coiffeuse. Puis la coiffeuse m'a demandé, quand je lui ai parlé que je travaillais dans le milieu du VIH-SIDA, elle me dit « Est-ce que ça se transmet par la salive? »
Oh boy, OK, on est vraiment rendu... J'ai entendu une réaction de Barbada.
Oui, voyons donc, il me semble que c'est des discours qui sont dépassés, qui devraient plus... Même dans la population qui connaît peu le VIH-SIDA, c'est comme un minimum de savoir ça dans ma tête à moi, puis je trouve ça quand même ahurissant. Puis effectivement, je suis d'accord avec ce qu'Éric dit, que le manque d'informations par rapport à ça est quand même criant quand on entend des choses comme ça. Là. Je pense que c'est,
ouais. OK, Katie, je te vois, parce que je sais que ta maman, elle est infirmière, puis elle a déjà travaillé dans ce domaine-là.
Oui, mais moi, ça me fait réaliser que c'est pas gagné. Il faut toujours répéter le message, le marteler et aussi se responsabiliser. Il ne faut pas penser que les jeunes vont adopter des habitudes sécuritaires. S'il n'y a pas de courroie de transmission, s'il n'y a pas de communication... Moi, mes enfants, ils ont aujourd'hui 21 et 19 ans et ils sont dans ce système scolaire québécois qui ne leur enseigne pas l'éducation sexuelle. Il n'y a pas de conversation sur les enjeux, sur comment s'aimer et avoir du plaisir sans mettre sa vie en danger. Mm-hmm.
Je reviens à Éric parce que je l'ai mentionné, tu es une personne qui est avec le VIH, puis moi, je peux le dire moi aussi. Alors, on est deux à la table ici.
Oui.
Est-ce que Quel est ton regard sur cette banalisation, justement, du virus mentionné, là, parce qu'on a mentionné depuis tantôt, ou le fait qu'on a peu d'informations? Puis, est-ce que c'est peut-être des choses comme la PrEP, qui est très efficace, qui a induit une photo de sécurité, peut-être?
Peut-être, mais la PrEP a aussi des conséquences. On voit une recrudescence des ITSS comme la syphilis, la gonorrhée. On est rendu avec des gonorrhées qui ne réagissent plus aux antibiotiques. Mmh. Alors, il y a un côté négatif à ça aussi. Puis, il y a comme l'espèce de pensée magique que la pilule va tout régler. Mais on sait très bien que vieillir avec le VIH, on développe des comorbidités. Il y a un vieillissement prématuré du corps dû à l'inflammation. Ce qui fait que c'est encore un problème aujourd'hui, puis encore aujourd'hui, recevoir un diagnostic de VIH, ça fait que souvent les gens s'isolent, subissent de la stigmatisation, mais souvent se font eux-mêmes de l'auto-stigmatisation et se ramassent complètement isolés parce qu'ils ont peur de retourner et de continuer à fonctionner dans la société. Et c'est là que Maison Plein Cœur joue un rôle important, puis Maison Plein Cœur a joué un rôle important pour moi aussi. Parce que, comme tu sais, Denis Martin, moi, en 91, quand Maison Plein Cœur a été fondée, moi, à l'époque, j'étais ce qu'on appelait à l'époque, aujourd'hui, on ne dit plus ça parce que c'est péjoratif, mais j'étais un junkie, puis je vivais dans la rue. Puis c'est comme ça, moi, que j'ai attrapé le VIH. Puis en 96, j'ai eu mon diagnostic, mais moi, j'ai eu la chance immense que la trithérapie venait d'arriver. Mes amis qui étaient décédés dans les années précédentes n'ont pas eu cette chance. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui me dérange énormément. Toute cette époque-là a comme été effacée de la mémoire collective, puis on dirait que les gens ne veulent plus en parler, mais c'est là. Puis il faut continuer d'en parler, puis il faut expliquer les progrès qui ont été faits, mais il faut vraiment faire de l'éducation. Comme Katie disait, l'éducation sexuelle à l'école, c'est la base de tout. Puis présentement, je veux dire, il n'y a pas d'effort fait en ce sens.
En effet. Au quotidien, c'est quoi les besoins les plus pressants des personnes vivant avec le VIH?
Les besoins les plus pressants, c'est qu'on est dans l'intersectionnalité. On a beaucoup de personnes maintenant qui vivent avec le VIH qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes de toxicomanie, des problèmes de pauvreté, aussi des problèmes de santé liés au vieillissement prématuré dont je parlais tantôt. Ce qui fait que moi, ce qui me blesse profondément, c'est que notre gouvernement ne comprenne pas qu'on est aux premières lignes. Les organismes comme Maison Plein Cœur, puis je suis aussi le vice-président de la COXIDA.
En effet.
Et on représente 37 organismes au Québec. On est aux premières lignes et les gens dont on prend soin, qu'on supporte, ces gens-là souvent ne se rendront pas dans le système de santé parce qu'on les prend en charge. Mais si ces organismes-là n'ont pas les moyens de rendre les services qu'on est supposé rendre, comment imaginez-vous que le service de santé va absorber dans la condition actuelle ces gens-là, va pouvoir en prendre soin? Puis c'est, on dirait que ça ne rentre pas dans la tête du gouvernement. S'ils nous aidaient à faire notre mission convenablement avec les moyens dont on a besoin, au bout du compte, ils sauveraient énormément d'argent. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais une personne en moyenne sur une vie avec le VIH, c'est minimum 1 million que ça coûte au gouvernement. Alors, à court terme, s'ils prenaient les moyens pour sensibiliser, détecter et traiter les gens, imaginez l'argent qui sauverait au bout de la ligne.
J'entends ça, je vais me permettre un commentaire. Je suis allé voir Corps Fantôme chez Duceppe. À chaque fois que je revois cette époque-là, je me dis, mon Dieu, si les gouvernements avaient fait de quoi à l'époque, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette épidémie-là qui, maintenant, on a un virus multirésistant à plein de choses et on ne sait plus comment le traiter. En tout cas, ça, c'est une autre paire de manches.
Hein? Oui, ça, on pourra en parler longtemps.
On pourra en parler longtemps. Les groupes communautaires, donc, tu le dis, Eric, sont essentiels depuis le début de la pandémie. Puis c'est pas juste une question de charité, là. Tu le dis, c'est une question de bon sens, de santé publique essentielle. Comment ça se fait que ça marche pas?
Je comprends pas, parce que moi, je suis sur un comité qui existe depuis la conférence de Montréal en 2022. On a fondé un comité qui s'appelle Québec sans SIDA, puis on essaie de contacter le gouvernement, puis on a même pas d'accusé de réception. Les seules personnes qu'on a pu rencontrer, c'est les personnes de l'opposition, soit du Parti libéral ou du Parti Québec solidaire, qui ont essayé de nous aider du mieux qu'ils pouvaient. Mais pour le reste, on dirait qu'on fait comme si ça n'existait plus. Mmh. C'est comme carrément l'impression que ça me donne, moi.
Comme ça touchait dans le temps, on parlait des fameux H, là, hémophiles, homosexuels, je sais pas, c'est quoi, haïtiens. Il y avait 4 H, là, je ne me rappelle pas d'autres, là, mais en tout cas, il y avait...
Il y avait les drogues par injection
oui,
aussi.
Oui, c'est ça. Mais... Ouais, voilà.
Puis ça, c'est une autre histoire, hein, parce que quand ils ont commencé à développer, la recherche a accéléré quand ils se sont rendus compte que c'était les hétéros pouvaient l'attraper aussi.
Ouais.
C'est Magic Johnson qui a changé la donne là-dessus.
Oh boy.
5 ans après, on avait la trithérapie. Mais avant ça, il n'y avait pratiquement rien qui se faisait.
Vous allez me permettre, parce que Maison Plein Cœur est en campagne de financement. J'ai vu votre vidéo. Je vais juste faire entendre un petit peu la musique aux gens, puis on revient là-dessus. Je ne sais pas lequel ou laquelle d'entre vous pourrait un peu décrire qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo.
Ben, je peux en parler parce que l'idée originale, c'est moi qui l'ai eu à cause de la chanson. C'est mon copain Frigide qui a écrit la chanson. Puis pour moi, cette